d'ailleurs. Là. Henri IV Sud à partir de Charest jusqu'à l'entrée des ponts. Gros ralentissement. Si vous êtes sur Duplessis Sud à partir de Chemin Saint-Fond, sans le ralentissement jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Pour ce qui est de la 20 direction ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles. Puis un petit ralentissement si vous êtes à la hauteur de Taniata. Autre chose? 88-971-102 texto.
D'Anginou qui a manqué d'énergie dans le dernier tour et demi. Le Canada qui menait la course et finalement, il est passé de premier à quatrième en l'espace de quoi? Une quinzaine de secondes.
Oui, puis d'ailleurs, pour la quatrième et la cinquième place, on est en photo finish. Fait que malheureusement, pas de médaille du côté des hommes pour le 1000 mètres en courte piste.
OK, la première période est terminée entre la Lettonie et les Américains au hockey masculin. C'est 1-1, ce qui en soi est une surprise.
Go Lettonie!
On verra si les États-Unis explosent à partir de la période numéro 2. Donc évidemment, on surveille tout ce qui se passe du côté des Olympiques, minute par minute. On aura la petite capsule également de notre ami tantôt. Là,
Alex Laramé.
Alex Laramé. Tout le monde ensemble! Merci. mais pour l'instant, on regarde l'essentiel des nouvelles et de l'actualité de ce jeudi 12 février, puis on va essayer de fermer une couple de dossiers ensemble aussi.
D'abord, le bureau du coroner qui a dévoilé l'identité du corps qui a été retrouvé en fin de semaine dans la structure du pont de Québec. Ça a fait énormément jaser. Ceux qui ont circulé dans ce coin-là ont vu les services d'urgence qui étaient sur place. Je dis les services d'urgence, mais on savait que la personne était d'ores et déjà décédée. C'est un jeune homme originaire de la région de Gatineau, Justin Taillon, 24 ans. Le corps qui avait été retrouvé samedi vers 21h30 sur le pont de Québec, la dépouille qui était carrément coincée sur la structure. Une enquête qui est toujours en cours pour éclaircir toutes les circonstances de ce décès qui demeure à cette heure-ci nébuleux. Par contre, la thèse de l'accident demeure privilégiée par les autorités. Ce ne serait pas un geste volontaire. Il n'y a aucun élément criminel qui serait en cause.
Okay.
Fait qu'à ce moment-là, ce n'est plus les policiers qui sont en charge, mais plutôt le bureau du coroner. C'est un départ à la retraite pour le chef du service de police de la Ville de Québec, Denis Turcotte. Ce sera en juin prochain qu'il quittera après 5 ans à titre de directeur, 36 ans de carrière comme policier, dont 34 ans au sein du service de police de la Ville de Québec. Il était entré en service à la tête du service de police en 2021. Il avait succédé à Robert Pigeon. Pour ce qui est des démarches de remplacement, ils vont débuter au courant de la semaine prochaine. D'ici là, il va continuer à assumer pleinement ses fonctions et va collaborer à une transition harmonieuse, qu'on nous dit dans le communiqué, afin d'assurer la continuité des opérations du service. Un peu plus tard, dans cette heure-ci, il y a Judith Demeul, journaliste judiciaire au Soleil, qui va venir s'asseoir avec nous pour nous donner les détails de ce qui s'est passé en cours aujourd'hui, alors qu'il y a un procès qui débutait. Un procès devant jury. Plus tôt cette semaine, on avait sélectionné les jurés pour le procès de Régent Bacon, qui était le Père Noël d'office dans le secteur du Petit Champlain pendant quoi? Pas loin d'une quarantaine d'années.
En fait, pour reprendre les termes d'un film célèbre, dans ce cas-ci, le Père Noël est une ordure.
Oh, il y a tous les termes que vous voulez parce qu'il a plaidé coupable aujourd'hui. Alors qu'il y avait de nombreux chefs d'accusation, là, 6 chefs d'agression sexuelle, dont un qui vise une femme qui n'a pas pu être identifiée, proxénétisme ou accusation liée. Il y avait 2 chefs, voyeurisme, il y avait un chef pour des vidéos qui ont été produites et possession de drogue, c'était pour du GHB. Puis la discussion aujourd'hui portait sur les vidéos qui devaient être présentées aux jurés. C'est quoi? C'est 11h30 de vidéos qu'on a retrouvées où des femmes sous l'effet de la drogue se faisaient violer par l'individu. C'était graphique. C'était les termes que le juge a utilisés, c'est rare qu'on entend ça. Puis il y a eu une négociation par la suite et il a choisi de faire un plaidoyer de culpabilité. Là, en principe, la peine devait être connue un petit peu plus tard aujourd'hui. De part et d'autre, on suggérait un 15 ans en dedans. Lui, il avait une maison dans le secteur de Sainte-Foy puis il disait qu'il hébergeait des gens qui avaient des problèmes de dépendance pour les aider, mais sa manière d'aider des femmes qui étaient dépendantes au GHB, c'est de leur dire « Tu vas voir ce qui t'arrive quand t'es pas consciente, là, c'est terrible, puis il violait. » Puis il y a des femmes qui ont vu ces vidéos-là, il y a des policiers qui ont dû leur présenter ces vidéos-là. Les impacts sont grands, mais Judith va pouvoir nous expliquer en détail comment ça s'est passé en salle de cours quand tout ça s'est déroulé un peu plus tôt aujourd'hui.
Salut, je suis un auditeur intéressé.
Ah oui?
Le Père Noël, il s'en va dans quelle prison? Hein?
À plus de 15 ans, ça va être un pénitencier, monsieur.
OK, c'est parce que j'ai un gros cadeau pour lui.
Ah oui?
Ho, ho, ho!
Arc! Arc, arc, arc. Le service de police de la Ville de Québec qui a confirmé avoir arrêté un individu dans cette histoire de puis c'est assez poche, là, qui s'est déroulé à la mi-janvier dans le secteur de la rue Mirand. Les policiers qui avaient retrouvé un piéton au sol, puis on en avait conclu que c'était une voiture qui avait foncé dedans puis qui avait foutu le camp. Il y avait eu un appel qui avait été fait aux médias puis à la population vers la fin janvier pour tenter de retrouver le propriétaire de la voiture bleue quatre portes en question. Aujourd'hui, c'est un homme de 26 ans qui a été arrêté pour omission de s'arrêter à la suite d'un accident avec blessé. Il est détenu, devrait comparaître cet après-midi au palais de justice. Je veux vous parler de Bernard Drainville qui a envoyé une proposition sur ses médias sociaux un peu plus tôt cet après-midi. Connaissez-vous la loi de Clare?
Non.
Clare.
C-L-A-R-E.
Non, du tout.
C'est inspiré le surnom de cette loi-là qui existe déjà dans plusieurs provinces et dans d'autres pays. Sur l'histoire de Claire Wood, une Britannique qui a été tuée par son ancien partenaire en 2008-2009. Puis cette loi-là, je vais vous lire carrément le message que Bernard Drainville a envoyé sur ses médias sociaux. « Donnons-nous un outil pour arrêter la violence conjugale. Trop de femmes se retrouvent en danger ou perdent la vie parce qu'elles n'ont pas eu accès à l'information qui aurait pu les protéger. On doit agir. »
Vous n'avez pas accès à ça au comment ça s'appelle ça, le plumitif?
Ou... Je vais continuer puis tu vas voir pourquoi c'est pas la même chose du tout.
Okay.
« Je propose que le Québec adopte la loi de Clare, un outil pour prévenir les drames et agir plus tôt. Cette loi prévoit le droit de demander aux policiers les antécédents de violence d'un partenaire, le droit de savoir, donc le droit d'être informé par les policiers que notre partenaire a des antécédents de violence. Donnons-nous les moyens de prévenir des drames et des féminicides. Cette loi-là est déjà appliquée au Canada dans certaines provinces. C'est le cas de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de Terre-Neuve-Labrador.
J'ai une question, puis oui. C'est peut-être une question hyper épaisse, mais t'appellerais-tu la police, toi, pour avoir des antécédents sur quelqu'un que tu viens de tomber en amour?
Si tu as des doutes, pourquoi pas?
Je repose ma question. Tu dis, si t'as des doutes, pourquoi pas?
Bon.
Appellerais-tu les policiers en début de relation pour vérifier? Il me semble que...
J'ose espérer que je verrai les drapeaux rouges moi-même. Ce que je veux...
Puis si t'es vois pas, t'appelles pas.
Ouais, mais c'est des proches qui les voient, Denis.
C'est pas du jour au lendemain, généralement. Là. C'est pas tu commences, t'as quelqu'un dans ta vie, puis tout d'un coup, il essaie de t'enlever la vie.
C'est pas comme un test de dépistage et ITSS.
Généralement, il y a de la violence psychologique, il y a des
indices.
Mais la personne... OK, je suis pas contre en passant. Là. Sautez-moi pas dessus. Là. La personne, souvent, c'est la dernière à allumer sur ce qui se passe. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Est-ce que, par exemple, la mère de la victime ou un proche de la victime peut appeler les polices et avoir accès à ces informations-là? Non,
pas dans ce sens-là, mais les policiers, eux, par contre, peuvent choisir d'aviser la personne. La nuance est là.
Après
parce
un
que,
signalement,
comme
mettons,
je te dis... cette loi-là donne le droit de demander et le droit de savoir. Là, tu parlais du plumitif. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le plumitif, c'est les dossiers criminels auxquels vous pouvez avoir accès. Quiconque peut avoir accès à ça va aller au palais de justice. La nuance, c'est que...
Moi, je pensais que vous l'aviez déjà là.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Tout ce qui était considérant les actes d'accusation.
Tu as les condamnations.
OK.
Fait que pour ça, il faut que la personne ait fini son parcours judiciaire et ait été condamnée.
Mm-hmm.
Et l'autre affaire, on le sait, on parle d'actualité judiciaire à tous les jours. Il y a des dossiers dont les noms sont gardés confidentiels parce qu'il y a des enfants ou des proches d'impliqués.
Oui, 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 oui.
Fait qu'à ce moment-là, quand même que tu vas au plumitif, tu peux pas avoir ces infos-là.
Dossier en cours, t'es pas non plus?
T'es pas non plus. Okay. Tandis que les policiers ont ces infos-là. Puis là, je me suis mis à aller chercher. La GRC a commencé à mettre en place des protocoles, en fait, vu que la loi a cours dans différentes provinces, des protocoles de divulgation dans le cas de violence, pour guider tous les services de police au long du processus, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de confidentialité là-dedans. Il y a de savoir jusqu'où tu veux aller, jusqu'où tu peux aller, dans quel contexte tu vas donner ces informations-là. Qu'est-ce qui est considéré comme étant un risque pour une conjointe, mettons, par rapport à une nouvelle fréquentation?
Mais on dirait, tu vois, j'avais pas le point de donne, j'irais même plus loin. T'as commis une agression sexuelle dans ta vie, je comprends la deuxième chance, là, mais pour moi, il y a une punition qui doit rester à vie, puis ça peut en faire partie, dans la mesure où moi, je serais d'accord pour qu'une mère ou pour qu'un employeur qui voit un employé drôlement agir avec une autre puisse... demander mais ces informations-là,
lui peut aller
s'il y a des tendances.
Lui peut aller au plumitif. Mais là, ce qu'on parle, c'est vraiment... On a eu beaucoup de féminicides depuis le début de l'année. Puis on a toutes les autres histoires on the side qui sont des histoires de violence qui ne se sont pas encore rendues à un meurtre.
Je vais te dire ce qui me dérange le plus là-dedans. C'est je pense que c'est une bonne idée qui part d'une bonne place. Il faudrait vérifier dans les autres provinces si ça se passe bien puis si c'est utilisé. Moi, j'ai un doute de départ là. À quel point... des gens aux prises dans ces dynamiques-là vont appeler ou appellent les policiers pour avoir de l'information. Moi, j'ai l'impression que l'entourage, malheureusement, tragiquement souvent, allume avant les autres. Mmh. L'autre chose, et c'est purement politique, le sujet à la mode où des politiciens sautent dessus pour dire « on va faire ça », ça m'énerve. Ça m'énerve.
Oh, mais d'un autre
puis
côté,
Bernard Drinville est un spécialiste là-dedans.
Ça avait été déjà demandé parce qu'il y a eu des histoires très tragiques. Puis il y avait un groupe qui était d'ailleurs allé à l'Assemblée nationale pour plaider pour l'application de cette loi-là, la mise en place de cette loi-là au Québec. En fait, c'est arrivé en décembre 2025. C'est arrivé aussi en 2023. Le gouvernement est au courant que ça existe. Il y a d'autres provinces qui l'ont fait. Puis,
As-tu déjà utilisé le plumitif?
Jamais.
Je veux juste dire en passant que les dossiers en cours, tu les as au plumitif.
Okay.
En cours? OK.
Ouais. OK. Mais c'est une bonne source?
Parce que...
Oui, quand même.
Elle s'en vient tantôt.
Elle ne s'en vient pas tantôt, mais okay. Ils travaillent dans le même domaine.
Ah, d'accord, c'est beau, merci.
Dans le protocole dont je vous parlais, là, la loi est axée sur une évaluation des risques. Elle permet de tenir compte des condamnations, des accusations, des déjudiciarisations ou des avertissements pertinents en ce qui concerne des infractions liées à la violence ou à la maltraitance. Puis ça va plus loin que ça. Fait qu'on semble aller au-delà du spectre de « voici le parcours de cette personne-là ».
Si c'est une bonne idée, j'espère qu'elle ne sera pas coq-bloquée à la CAQ parce que ce n'est pas Christine Fréchette qui le dit en premier.
La CAQ, actuellement, a l'air de se mêler dans ses propres pinceaux. Fait que j'ai peu d'espoir, mais je trouvais ça intéressant de parler, par contre, de cette... Voilà, moi, je n'avais pas entendu parler, même si elle a été appliquée dans certaines provinces au Canada.
Je trouve ça intéressant. C'est peut-être même nécessaire. C'est sûrement utile. Mais c'est juste la CAQ qui continue d'essayer de coller sur quelque chose. Tu sais, la suite de François Legault, pour moi, c'est ça. Là. Faire ça. Ouais, c'est parce que ça fait 8 ans, là. Ça fait 8 ans que Drinville est là.
Mais tu vois, en même temps, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça colle ou ça colle pas. Le fait qu'on entende parler, ça nous amène peut-être au fait que ça peut peut-être coller dans 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans.
Mais c'est loin, là.
Ben, c'est loin, mais le point, c'est que là, au moins, on en parle et on sait c'est quoi, parce que moi non plus, j'en avais jamais entendu parler.
Puis, tu sais, c'est un outil parmi tant d'autres. Il faudrait aussi s'assurer que les autres outils soient bien appliqués.
Exact.
T'sais, on a parlé de différentes histoires de bracelets anti-rapport. Rapprochement qui était so-so ou encore de personnes qui ont réussi à naviguer entre les mailles du filet. Là.
Je regarde comment les gens se comportent dans des fraudes amoureuses. Puis vous allez me dire que c'est pas la même chose,
mais il y a
quand même des comportements qui se ressemblent. Ouais. Tu sais, la personne qui est victime d'une fraude amoureuse, souvent est la dernière à se rendre compte. Ouais, finalement, ma fille, ma petite-fille, mon cousin, mon grand-oncle, mon chien avait raison. Je parle pas avec Brad Pitt.
Mais si c'est des proches qui contactent les policiers en disant « Hey, on a des doutes sur telle personne dans l'entourage », puis que les policiers se rendent compte qu'effectivement, plus un, ça fait deux, puis qu'eux peuvent intervenir, c'est notre gang.
Je suis vraiment rendu trop cynique parce que l'idée de base est bonne, mais j'ai le goût de te répondre. Il y a des parents qui vont au poste de police pour dire « Notre fils de 32 ans est une bombe à retardement, il va tuer du monde, il est dangereux, il prend pas ses médicaments. » Puis les policiers prennent pas ça au sérieux. Il y a une fille qui fait la météo à TV. Qui est allé au poste de police à Montréal pour dire qu'elle avait reçu des menaces puis qu'elle capotait sa vie. Puis le policier a demandé « Ouais, mais t'étais habillé comment, TV? » On part de loin, là.
On part d'excessivement loin.
Puis c'est ça, là, je suis pas en désaccord. C'est pas une mauvaise idée, mais tabarnouche qu'on a du travail à faire.
C'est sûr.
Puis ouais. La question est bonne aussi de savoir est-ce que quelqu'un qui a des doutes va vouloir être confronté à la vérité.
Pas tout le temps.
On va préférer se fermer les yeux.
Ouais, mais là, ça, c'est plate ce que je vais dire, là, mais...
Non, non.
Quoi?
Non, quoi?
Ben, vas-y voir.
Ben non, mais c'est plate ce que je vais dire, mais c'est parce qu'à un certain point, si tu as un feeling, puis que tu as les outils pour vérifier ce feeling-là, puis que tu l'utilises pas, tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider.
Je comprends.
On revient tout le temps à ça, là.
Ben là, c'est plate, ça sonne vraiment cru, mais c'est ça pareil.
Mais tu sais, le plus gros problème, ça reste ces gars-là, par exemple.
Absolument. Ah non, ça, je vais pas contre ça, là, qu'on se comprenne.
Fait que voilà, c'était la sortie que Bernard Drinville a fait un petit peu plus tôt cet après-midi. Je termine en vous mentionnant qu'il y a une opération déneigement qui a lieu cette nuit dans le secteur de la cité Limoilou. Fait que portez attention.
Dans le doute, on vérifie. Dans le doute, on signale. Ouais. Dans le doute, on s'en va parler avec des proches. Puis même si on est en amour, puis qui a changé, puis que si, puis ça, ben tabarnouche, aidez-vous. Aidez-vous à nous, aidez-nous à vous aider. Ouais, ça partait, c'est un peu comme l'affaire à Bernard, là. Ça partait d'une bonne intention.
Ouais, c'est ça.
Faut juste se rendre, c'est ça qui arrive.
Tout à
fait. 4h15, vous êtes à Boulevard, on vient.
L'actualité présentée par...
16h20, 420. Bienvenue dans le retour. Bienvenue chez vous à Boulevard 102-1. Bienvenue au quartier général de l'extrême centre.
Mon Dieu, tu nous as ramené en arrière à Boulevard, là.
Hein?
C'était le nom du matin, ça, le quartier général.
Le quartier général. Pas sûr que le gars du temps aurait aimé ça, que j'appelle ça le quartier général de l'extrême centre, par exemple. Alors, on a moins 1 degré à Québec sous le soleil. C'est une vraiment très belle fin de journée. Le maximum était à moins 2. On l'a dépassé. Minimum de moins 12 ce soir et cette nuit. Demain, soleil. Maximum de moins 5. Neige intermittente qui débute dans la nuit de vendredi à samedi. Se poursuit pendant la journée de la Saint-Valentin. De la neige intermittente, donc, maximum de moins 5. Dimanche, soleil. Maximum de moins 4. Lundi, mardi et mercredi, on est à 1 degré au-dessus de zéro. Quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, le 418-971-1021. Audrey.
C'est encore super difficile si vous êtes sur Capitale, direction ouest entre Henri IV et Laurentienne. Ça démarre pas. Ouest, ça se passe entre Bourg-Royal et Laurentienne. Quelques problèmes hauteur Robert Bourassa aussi. Robert Bourassa, direction nord, c'est entre Charest et la Capitale. D'ailleurs, Charest, dans les deux directions hauteur de Robert Bourassa, il y a un ralentissement inhabituel. Ralentissement aussi, je vous dirais, entre... vous êtes sur Charest-Ouest en passant, là, entre Duplessis, mettons, et le IKEA, là, environ à la hauteur de Jean Gauvin. Il y a des problèmes quand même qui s'installent. Henri IV Sud, à partir de Charest jusqu'au pont, difficile. Duplessis Sud, même chose, jusqu'au pont. Des problèmes sur la 20 direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata. Puis plus haut sur la rive nord, dans le nord, dans Quaitchanon, devant la base militaire, route de la Bravo, dans les deux directions, ça décolle pas non plus. Même que route de Fossambeau, je vous dirais qu'à la hauteur de Jacques-Cartier, c'est compliqué. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021, texto.
Évidemment, étant donné qu'on s'est déclaré d'extrême centre, ça vient avec certains privilèges, certaines responsabilités, évidemment. La responsabilité de réfléchir, la responsabilité d'écouter les deux sons de cloche à gauche et à droite, la responsabilité de prendre des gens qui voient pas la vie de la même façon que toi et d'essayer de dialoguer avec eux autres. L'extrême centre vient avec des responsabilités. Mais ça vient aussi avec quelques privilèges. Et les privilèges qu'on a, c'est de pouvoir planter à la fois l'extrême-gauche et l'extrême-droite quand ils disent des hosties de niaiseries.
Fait que là, on s'en va où?
Aujourd'hui, on plante l'extrême-droite. Wow. Et on va fermer un dossier qui m'agace. J'ai lancé un message hier à quelques reprises. Et aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il faut faire dans ce temps-là quand on lit... beaucoup de sornettes et beaucoup de sottises, faut faire nos recherches. Fait que j'ai fait mes recherches.
OK.
Oui, j'ai fait
sur
ça.
Sur des sites à bonne source?
Tout ça part, évidemment, de la fusillade du côté de Tumbler Ridge. Ouais. Une tragédie, Véro. Les derniers bilans, les bilans officiels font état de combien de victimes?
C'était 8 personnes qui sont décédées. Mark Carney, qui devrait d'ailleurs s'y retrouver vendredi. On a fait une mise à jour à son agenda, fait qu'il va se déplacer du côté de la Colombie-Britannique.
Il y a un détail concernant le tueur qui retient énormément l'attention chez les droitistes de l'extrême.
Oui, mon Dieu. Jesse Van Rootseler, qui était âgé de 18 ans et qui est né homme et avait amorcé une transition de genre il y a 6 ans de ça.
Ah! Family Prix! Encore un trans. Hein? Les trans. On permet ça dans nos sociétés, ces gens différents-là. Hein? Toutes des malades. Hey, vous le savez, parce que j'ai entendu ça dans une radio web de la Floride, là. Beaucoup de tueries faites par des trans, hein? La plupart du temps, quand il y a une fusillade, c'est un trans qui tient le gun, hein? Ah ouais?
Dis-moi pas que t'as des stats.
Et des chiffres.
Satisfaisant.
Et j'ai utilisé, pour être sûr de pas me faire qualifier de grelot par l'extrême droite... J'ai utilisé un engin de recherche qui est parmi vos préférés. D'ailleurs, le propriétaire de l'outil est lui-même anti-trans, étant donné que dans sa descendance, il y en a une qui parle peu.
Mon Dieu, on parle de...
J'ai utilisé Grok sur Twitter pour arriver avec des chiffres. Depuis 2018, combien de fusillades aux États-Unis ont été faites par des hommes. 4012. Depuis 2018, Combien de fusillades ont été faites par des femmes? 127. Depuis 2018, combien de fusillades ont été faites par des trans?
10.
1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4.
Fait que c'est comme quoi 98% par des hommes.
Gravel au centre là, t'es gauchiste déguisé là, ça marche pas ton affaire. Faut que tu prennes le nombre de trans, puis faut que tu comptes le nombre de fusillades pour les trans, puis que tu fasses un pourcentage là, t'essayes de bourrer le monde avec tes chiffres. Je comprends. Les voulez-vous, ces chiffres-là? Je les ai sortis avec Grok. OK? On regardait ça ensemble. 4012 pour les hommes, le nombre de fusillades. C'est 97% des fusillades versus 49,7% de la population pour les hommes. Vous me suivez?
Mm-hmm.
C'est pas trop compliqué?
À date, ça va bien.
Moi, on m'a demandé de faire les recherches, là, parce que là, mes chiffres, ça marche pas, là. Ça donne 24 fusillades par million. Vous me suivez toujours?
Oui.
Merci. Les femmes, 127. 3% des fusillades pour 49,5% de la population. C'est 0,8 par million. 0,8 personnes par million pour les femmes. Les trans, hey, là, on va tomber à terre. De chez vous. 4 fusillades. Pour 0,8% de la population, ça fait 1,4 par million. Les hommes, 24 par million. Les femmes, 0,8 par million. Les trans, 1,4 par million. Messieurs, vous gagnez encore la palme! Jeff, qu'est-ce qu'on dit, là? Mais si on prend... T'as peu, là. Il y a sûrement une façon de le virer, là. Qu'est-ce que je fais, là? Non, mais faut pas regarder l'ensemble de la population. Faut juste les regarder eux autres, là. Les bizarres, là, qui me rendent insécure parce que je suis pas pareil à eux autres. On peut faire ça aussi, Jésus. On le fait-tu?
Go.
OK. On va le faire. Les hommes, 4012, 169 millions d'hommes, c'est 1 par 42 100 personnes. Les femmes, 127, pour 168 millions de femmes, c'est 1 par 1,32 millions de personnes. Les trans... Hein, c'est ce danger qu'il faut éradiquer de l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que nos enfants vont devenir, là, hein? Justin Trudeau a été premier ministre, là. C'est 4 tireurs pour 2,8 millions. C'est un tireur pour 700 000 personnes trans. Fait que virez-les comme vous voulez. Les chiffres vous donnent tort, pas un peu, pas moyennement, totalement. Fait que rendu là, l'extrême centre a le droit et même le devoir et la responsabilité de vous dire vos gueules.
Ah, puis là, t'as ceux qui disent juste « Ouais, mais on voit bien là, que trans, c'est de la maladie mentale. » OK, c'est quoi votre explication pour toutes les autres qui sont des hommes?
Il y en a plus de la maladie, de la dépression. Les trans font plus de dépression puis de tentatives de suicide. Ben oui, ils sont mal dans le pot. Ils consultent. Pour tous ceux-là qui consultent pas.
Puis y en a qui
là, vous êtes au bout de votre argumentaire. Vous êtes sur le bord du précipice. Vous êtes comme Willy le coyote, là. Vous êtes pas rendu compte qu'en dessous du nuage, vous êtes plus sur le concret. Vous êtes en train de tomber. Là, revenez-nous, là. Revenez dans le trail, les boys. Je comprends que une insécurité qui fait en sorte que vous êtes mal dans votre peau et mal dans votre vie, fait en sorte que les gens différents vous dérangent, vous déstabilisent, vous empêchent de dormir. Mais c'est pas du monde qui tue du monde. Le monde qui tue du monde, c'est des hommes. C'est prouvé. Virez le chiffre comme vous voulez. À la racine carrée, à l'hypoténuse. Faites ce que vous voulez avec. C'est des hommes qui tuent du monde. Oh, et by the way, si vous m'avez manqué hier, je vais vous le redire. Si ça vous fâche, une fille qui généralise sur le dos des hommes, pourriez-vous vous garder une petite gêne sur le dos des trans? L'hypocrisie vous sort par le front, par le cul en même temps. Hey, c'est le fun, l'extrême centre. Moi, j'aime ça, l'extrême centre.
Oh, Seigneur.
Fait que vous direz ça à vos mononcles. Il est 16h31. Vous
êtes t'es à bon en maths, j'aime ça.
Hein?
T'es bon avec tes chiffres.
C'est pas moi. C'est pas moi, c'est Grok. C'est l'outil d'Elon Musk qui a déshérité sa descendance ouais, trans.
Ce qui est d'une ironie, là. Je vais vous sortir ça sur le blvd.fm si jamais vous voulez l'envoyer subtilement à certains contacts là, sur vos réseaux sociaux.
Hey, ça va faire, là. Soyez conséquents. Soyez conséquents. C'est une de nos responsabilités dans l'extrême centre. La bêtise humaine est à droite et
juste
à gauche.
Une affaire, par exemple. Faut vraiment que tu arrêtes de tout le temps dire extrême centre parce que tu es en train de comme décrédibiliser ce qu'on essaie de faire.
T'es-tu en train de dire que je chercherais pas à être crédible dans tout ça puis que ce serait juste un exercice ironique de deuxième niveau?
J'en doute pas.
Jamais de la vie.
Mais là, c'est comme ça. Cette expression-là commence à me taper ses nerfs. Je m'identifie à ça puis je suis comme ça va être beau. Là.
Tu comprends-tu? Faut que je crie. Tu sais, ça prend du clic, ça prend... Moi, je me bats là, contre des gorlots des deux bords, là.
Ouais.
Fait que faut que je sonne un petit peu gorlot, même en donnant des faits indiscutables.
Fait que c'est comme un piège.
Ouais.
Il y en a qui vont comme faire « Ah oh, ouais, hein? »
L'extrême centre, c'est...
On va peut-être les récupérer.
C'est sûr que le porte-parole est un peu gorlot, là. Mais en dessous, il y a des faits, il y a des évidences. Puis on essaye de ramener les gens un petit peu sur la trail. Il y en a quelques-uns perdus, on les retrouvera jamais. Je peux rien faire pour Guillaume Lemaitivierge. Trop loin en arrière.
Mais il y en a qui sont
là. Trop de rattrapage à faire. C'est un plan de Guillaume d'essayer de rappeler Guillaume. Tu peux pas faire ça.
Le trouvais bon, celle-là.
Ouais, pas pire. Ouais, c'est pas pire. Bon. Il travaille comme un Guillaume pour essayer de se rattraper, mais il est rendu trop loin.
Ouais, elle pousse pas, là. Okay, donc, fois, mais okay, faut comprendre la subtilité.
Reviens-nous, t'es sorti du centre, là.
Oh, ouais.
Pas de trouble, mon Guillaume. Fait que c'est ça qui est ça. Je suis un petit peu secoué de voir le nombre de personnes qui, en l'espace de 4 jours, sont sautées sur une pauvre petite fille à Montréal qui faisait des généralisations épaisses sur le genre humain et qui, 3-4 jours plus tard, ont fait eux-mêmes des généralisations épaisses sans rien vérifier puis qui ne se sont pas rendus compte qu'ils faisaient comme les preachers américains des années 80. Il disait une affaire, puis il faisait l'autre. L'extrême centre, c'est sûr qu'on est assis sur une clôture. On n'est pas bien. Des fois, ça
rentre.
Des fois, ça rentre, puis ça fait mal. Mais c'est dur de réfléchir. C'est dur de penser. C'est dur d'utiliser son cerveau pour se sortir des conneries qui se disent à gauche et à droite. Le ping-pong des tourlous. Avec choix d'un bord, Radio-Canada de l'autre. Vous voulez des repères, moi, vous en donner. Boulevard 102-1, en tout cas, Gravel dans le retour, extrême centre. Yes! Maudit centriste, ils ont encore raison. Avec le chiffre, puis le statistique, puis le réflexion. Pas de danger que je réfléchisse avec eux autres, les maudits centristes. Ça va être la fin de l'univers. On va tous se mettre à penser. Hey, mes enfants vont réfléchir par eux-mêmes. Comment je vais faire pour les endoctriner, moi? Hein? Et ils vont devenir quoi? Des trans? Ben, Chris, ils sont heureux. Qu'est-ce que ça t'enlève, toi? Hein? Qu'est-ce que ça t'enlève? Pis toi, à les haïr de même, t'aurais-tu aimé ça? Porte un petit trouble, hein?
C'est quelqu'un qui a manqué un appel.
T'as-tu déjà essayé quand ta femme est partie? Hein? Ça a-tu allumé des petites affaires qui t'ont rendu inconfortable? Ah, c'est-tu de là que ça part? Ah, OK, là, je comprends. Crime, vas-y voir le docteur. Tu vas être heureux après, tu vas être moins fâché sur Twitter. Tes 8 comptes anonymes, là, tu vas tout pouvoir les fermer. Tu vas pouvoir arrêter d'écrire aux présentatrices météo à Montréal.
Imagine comment tu gagnes du temps dans la vie.
Tabarnouche! Je vous souhaite d'être heureux. Les boys, les filles, tout ce qui entre les deux. Dans l'extrême centre, on est heureux. Puis on n'empêche personne d'être heureux. Même Guillaume Lemaitivierge a le droit d'être heureux. C'est jusque-là qu'on va avec l'élastique. Je peux pas aller plus loin.
Non, tu peux pas aller plus loin.
16h35. Un peu de sérieux au retour. Mmh. On revient. Ce sera pas long.
Pour joindre l'équipe.
Il est 16h43. Hey, juste vous dire que les Américains se sont réveillés un peu. On termine la deuxième période. C'est 3-1 pour l'équipe de hockey masculine.
4-1
face à la Lettonie. Ben oui, je suis en train de regarder le quatrième but au moment même où je vous parle, à 11 secondes de la fin de la deuxième période.
T'es-tu en train de nous dire que t'as mis ça sur ton sel, toi, là?
Non, je fais autre chose.
Oui, au moins, j'ai le...
Ah! Là, tu nous as enlevé notre son des écouteurs.
T'as tout brisé.
Ben ah, non, merci.
Moi, au moins, je suis sur le site officiel des Olympiques. Fait que je regarde pas la partie, je regarde juste des chiffres.
Non, nous, on a la TV avec les nouvelles, puis Denis son seul qui écoute la game.
C'est quel joueur des Browns hein, qui joue dans ces équipes-là?
Non, mais je voulais juste suivre la game parce que, pour vrai, après une période, que ce soit seulement 1-1 entre la Lettonie puis les États-Unis, moi, des upsets, je trouve ça drôle au hockey, mm-hmm. particulièrement contre les États-Unis et toutes mes excuses, Véro, le Canada aussi. Je trouve ça drôle quand les grosses équipes arrivent avec le gros sabot et leur grosse puissance.
L'as-tu vu notre grosse équipe un matin?
Ouais, mais mettons qu'ils perdent demain contre la Suisse. Là.
Moi, comment t'as trouvé
ça? Il y a plein de monde qui vont être fâchés, puis moi, je vais trouver ça drôle.
Comment t'as trouvé ça de voir Pastrniak et Brad Marchand sur la même glace, mais pas jouer ensemble?
Ben, je suis habitué, là, ça fait 2 ans.
J'ai envie de même.
Je t'ai dit ça de même. Brad Marchand est rendu avec les Panthers.
Mais là, il fallait qu'on prenne pour Brad Marchand. Nous autres, c'était bizarre.
On regarde ce qui se passe dans la circulation. Audrey.
C'est vraiment épouvantable. Honnêtement, peu importe vous êtes où en ce moment, là, c'est catastrophique.
Ben voyons, c'est quoi qui s'est passé là?
Non, mais ça fait longtemps que ça n'a pas été rough de même. Je te dis, ouvre ta carte.
Quand tu le dis même, on dirait que le pont s'est effondré.
Mais le pont, c'est pas effondré. Il manque juste ça.
C'est pas effondré.
Non, mais sans blague, là, en ce moment, mettons la capitale, dans les deux directions, super difficile. Direction est entre Henri IV et Laurentienne, ouest entre Beau-Royal et Laurentienne. Robert Bourassa, entre Boulevard Laurier, mettons, et la capitale. Très difficile. À vous, Véro, hein?
Il y a plein de petits accidents. Il y a oui. De petites icônes de char. Là.
Mais le pire, c'est que quand je regarde sur le Twitter du 511, il y a une affaire encore en vigueur. C'est Charest Est, hauteur Henri IV, voie de droite du centre bloqué accident.
Je comprends ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je comprends ce qui s'est passé. On ramène les gens vers le centre. Qu'est-ce que ça fait?
Des accidents.
Ben là, c'est parce que tout le monde se ramasse en même
temps
qu'en même temps.
Il faut surveiller les angles morts.
Je comprends que les 15 dernières minutes de radio ont créé une commotion sur le réseau routier de la grande région de Québec. Mais tant mieux. Tant mieux. Je veux dire, en soi, on est pogné dans le trafic, mais c'est quand même une bonne nouvelle sur le fond.
S'il n'y a personne de blessé, on est en bonne place.
Les gens reviennent à la raison tranquillement. Ouais, c'est une bonne affaire.
Charest, hyper difficile si vous êtes sûr. Henri IV Sud, vous allez chercher la bretelle pour Charest direction ouest à partir de là, mettons, dans bretelle, là, jam-pack, jusqu'à à peu près Jean Gauvin. L'entrée des ponts direction sud pour vous rendre au pont La Porte surtout, que vous soyez sur Duplessis ou Henri IV à partir de Charest, c'est le bordel. Des problèmes sur la 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et Taniata. Quelques problèmes aussi sur Guillaume Couture à la hauteur de chemin du Sault. D'ailleurs, sur du Sault, des problèmes à la hauteur de la 20, ce qui est très inhabituel. Plus haut, dans le nord, c'est Henri IV Nord, hauteur de la capitale, il y a un certain ralentissement. Toujours sur Henri IV Nord, dans le coin de Val-Bélair, entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle, boucher bien raide. Devant la base militaire, route de la Bravo dans les deux directions. Excessivement difficile, ça décolle pas. Puis pour ce qui est de la route de Fossambeau, entre Désirable et de la Jacques-Cartier, toujours problématique aussi. Ça, c'est comme les grandes artères. Si vous avez des affaires un peu plus précise à me partager. 88-971-102 texto.
Judith Demel est journaliste judiciaire pour Le Soleil. Elle est en studio avec nous. Salut, Judith.
Allô.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va. Un petit peu fatigué. Je sais pas si... Okay. C'est comme si je m'étais emporté là, dans la dernière demi-heure. Mais je suis revenu à la raison si jamais t'étais inquiète.
C'est ramené. Ça va.
retournement de situation majeure dans les 24 dernières heures dans le dossier de Régent Le Père Noël est une ordure Bacon.
Oui, on s'attendait à un procès de 6 semaines, je vous rappelle, un long procès. Et finalement, M. Bacon a décidé de plaider coupable hier soir. Les ordonnances ont été levées ce matin. Et donc, la nouvelle a été sortie ce matin et le jury a été remercié.
Oui, parce que quand tu es venu nous voir, on avait terminé la sélection des jurés. Ça veut dire qu'on était somme toute avancée dans le processus malgré tout. Hein?
Oui, tout le monde avait été appelé lundi. On avait fait la sélection puis on devait commencer ça ce matin. Puis mardi et mercredi étaient des journées pour régler des requêtes.
Okay.
Et ce qui est arrivé, c'est que pendant l'audition de ces requêtes-là. Il y a des choses qui sont passées. Je vais vous expliquer qui a fait en sorte que Réjean Bacon a poursuit sa réflexion et a décidé d'admettre qu'il avait commis les crimes.
Fait qu'encore hier après-midi, c'était un gars qui voulait plaider non coupable puis faire en sorte qu'il y ait un procès.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui est arrivé qui l'a fait changer d'idée comme ça?
En fait, ça, c'est un dossier qui roule depuis 2022. Ça fait longtemps. Le procès était censé être fait l'an dernier. Donc, puis comme ça allait devant jury, il n'y a aucune information qui sont sorties jusqu'à maintenant. On savait qu'il était accusé d'agression sexuelle, de voyeurisme, proxénétisme et possession de stupéfiants. Puis, au cœur de cette affaire-là, ce qu'il y avait, ce sont des vidéos. Réjean Bacon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a filmé des agressions sexuelles, lui en train d'agresser des femmes qui étaient très intoxiquées à un point d'être inconscientes, voire inertes. Puis, il filmait ça et dans son rôle de Père Noël, de bon samaritain, voulait montrer les vidéos ensuite à ces femmes-là, qui n'avaient aucun souvenir parce qu'elles dormaient littéralement pendant les agressions, pour leur montrer les effets néfastes de la drogue.
Ça, c'est son narratif à lui, là.
C'est toujours
sa justification qu'il donnait.
À ce jour, c'est ce qu'il pense.
Je vais lui donner une bonne leçon. Je vais l'agresser sexuellement pendant qu'elle est dans le coma à cause des drogues.
C'était même pas ça.
Non?
C'était, elle ne sait pas ce que ça fait, le GHB. Elle va s'intoxiquer au GHB et moi, je vais l'agresser pour lui montrer qu'elle peut se faire agresser.
C'était pas pour profiter d'elle pantoute, là.
Non, Seigneur.
C'est, on parle un peu de...
C'est tordu,
attention
là.
À mes mots, là. C'est, je veux dire, il y a des gens qui ont parlé à ma place durant ces audiences-là aujourd'hui, mais c'était d'une absurdité qui dépasse l'entendement.
Parce que lui, aujourd'hui, a pu s'adresser à la cour.
Oui, on offre la chance à tout délinquant de le faire.
Lui a donné ça comme explication.
Oui.
Comment ça a été pris, là? Comment ça a réagi?
En fait, là, depuis un an, tout le monde est très poli avec lui parce que Réjean Bacon bénéficie de la bénédiction d'innocence. Puis, donc, quand il donnait ces explications-là, depuis un an, parce que lui, c'était sa défense, le juge restait patient. Et lui
il
donnait
pas
la
un
parole,
mot, mais
il entendait les requêtes parce que, bon, cet homme-là, il peut être innocent. Puis, quand les plaidoyers de culpabilité ont été enregistrés, on a vu un juge qui a perdu patience et qui l'a laissé s'exprimer là, quand même longtemps, jusqu'à temps de dire là, non, là, c'est assez.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Premièrement, il lui a coupé la parole parce qu'il est comme parti en disant qu'il n'a jamais été violent avec les victimes. Et là, le juge, il a dit pardon. Vous ne trouvez pas qu'une agression sexuelle, c'est violent? Et que ça a commencé comme ça. Puis là, après ça, il a dit, je voulais les aider. Le juge lui a répondu, moi, ce que j'ai vu, parce que le juge, il les a vus, les vidéos. Il a dit, c'est pas de l'aide. Si c'était ça de l'aide, vous auriez dû laisser faire.
Les vidéos, c'est combien de temps et combien de personnes?
C'est 11h30 de vidéos d'agression sexuelle. Puis ce qui est arrivé mardi, mercredi, c'est qu'il y avait une question à savoir si les vidéos allaient être présentées à huis clos à ce jury-là, parce que les vidéos étaient au centre de la preuve et devaient être présentées selon la poursuite. C'est eux maîtres de leur preuve, c'est eux qui décident. C'est des vidéos difficiles, des images explicites, indécentes, qui vont te faire des cauchemars.
T'es vu, toi?
Je les ai pas vues. Okay. Parce qu'elles sont restées, il y avait juste le juge, les policiers, puis les avocats qui les avaient vues. Et puis là, venu le temps de dire, bon, est-ce qu'on présente ces vidéos-là à huis clos? Puis là, il y a eu des requêtes à savoir, bon, est-ce qu'on fait un huis clos? Est-ce qu'on le fait pas? Les médias, ils ont dit, ben, on veut pas de huis clos parce que c'est caché un petit peu des informations. Donc, il y avait des discussions par rapport à ça. Et pour traiter de cette question-là, du huis clos, on a montré les vidéos au juge, mais sinon, le juge les aurait vues en même temps que tout le monde pendant le procès. Et c'est quand le juge a pris connaissance des vidéos qui semble avoir eu un changement là, dans la manière d'approcher ça, parce qu'il y a eu des réactions vives dans la salle. Nous, on était à l'extérieur, évidemment, mais on a vu tout le monde sortir de la salle ensuite. C'était pas un bon moment là, qui s'était passé.
Il y a juste le juge qui regarde
ses... Le juge
ses...
et le personnel judiciaire, les avocats, l'accusé.
L'accusé voit l'accusé les vidéos voit aussi.
Puis il voit les réactions.
Mais il voit les réactions. Donc, c'est un peu ça on pense, a fait mûrir sa réflexion de se dire, bon, si on présente ça à un jury, ça peut être catastrophique. Et donc,
Il s'est probablement vu dans les vidéos, puis il s'est dit « Ouais, mon explication, probablement qu'elle tient pas à route. »
Ben, je pense pas qu'il a pensé ça, parce que il l'a encore
justifié. Il a répété ça aujourd'hui.
Il l'a répété, puis même si le juge lui disait « ça n'a pas de bon sens », il continue à le penser, puis il est revenu au fait qu'il était le Père Noël, et il termine sa déclaration en disant qu'il... J'espère que cette histoire-là n'aura pas terni l'image du Père Noël. Et puis là, le juge, vraiment, là, il a laissé tomber ses mains sur la table et il a dit, là, un instant, là, vous êtes Régent Bacon. Le Père Noël est un personnage imaginaire et vous allez arrêter de vous comparer à ça et d'utiliser ce personnage-là pour justifier. Parce que lui, il disait, moi, j'ai fait le bon toute ma vie, j'ai agi de Père Noël, j'ai combattu des injustices sociales, je me suis battue pour les enfants, pour ci, pour ça. Puis le juge était là, tout ce que vous me dites, ça importe peu. Parce que moi, ce que j'ai vu durant assez longtemps, il n'a pas vu l'entièreté des 11h30 de vidéo, mais il en a vu assez pour se faire une tête. Et c'était... Pour avoir parlé aux enquêteurs de police, c'est parmi les dossiers les plus sensibles qui a été traité.
Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question-là, parce que je te l'ai posée puis je n'ai pas entendu la réponse. Il y a combien de filles sur ces vidéos-là?
Oui, pardon. Il y en a 6 qui ont été identifiées. En fait, ouais, il y a 6 victimes officielles.
Mais il y en a d'autres.
Il y en a qui n'ont pas été identifiées, oui.
Jamais?
Ou qui ne voulaient pas porter plainte. Okay. Là, l'histoire ne le dit pas, comme elles ne sont pas impliquées dans l'affaire.
C'est sur une période de combien de temps?
C'est entre 2015 et 2021.
Il y avait un appartement à Sainte-Foy.
Appelé la commune. Parce que lui hébergeait tous ceux qui avaient besoin d'aide, comme je vous dis.
Il spottait du monde
il
vulnérable.
Il était un sauveur.
Mm-hmm. Ouais. À partir du moment où il y a un plaidoyer de culpabilité, tout le monde revient en salle aujourd'hui. Les victimes sont là?
Oui, on était... Parce que hier, il y a eu le plaidoyer de culpabilité rapidement, puis on a laissé le temps aux victimes de venir au palais de justice parce que... Puis c'était beau parce qu'elles voulaient être là. Mm-hmm. Parce que eux, faut savoir que... Puis c'est très délicat, là, mais elles savent pas ce qu'elles ont vécu.
Parce elles n'ont que souvenirs.
Elles n'ont pas de souvenirs et on leur a dit les grandes lignes, mais elles ne les ont pas vues, les vidéos. Là. C'est pas quelque chose qu'elles voulaient voir. Okay. On leur a proposé...
S'il y avait eu un procès, elles auraient eu à voir ces images-là.
Non. Elles
pas nécessairement.
De pas l'être. Okay. Parce que leur témoignage était basé sur ce qu'eux avaient vécu et ce dont ils se souviennent. Parce que tu peux pas témoigner sur quelque chose que tu te souviens pas de toute façon. Mm-hmm. Puis les vidéos allaient être présentées ensuite pour appuyer leur témoignage. Et à ce moment-là, elles auraient décidé si elles voulaient être présentes ou non. Et elle voulait être présente parce que c'était un petit peu pour clore ce chapitre-là qui est encore un peu nébuleux pour eux. Mm-hmm. Puis là, elles ont entendu qu'elles ont vécu des choses horribles. Horribles, c'est tellement que le juge l'a répété et a dit quelques segments là, en faisant un sermon un peu à Régent Bacon. Et je pense que c'était suffisant, il ne fallait pas aller plus loin. Et je pense que personne ne veut avoir des images de ces vidéos-là. Mm. Et c'est des gens qui... C'était des gens vulnérables qui étaient dans la consommation beaucoup, d'anciennes escortes pour certaines. Et je pense qu'il y a un travail de se remettre sur le droit chemin qui est enclenché et quand même fragile.
Est-ce qu'il y a ces victimes-là qui ont eu l'opportunité de parler aujourd'hui?
Oui. Il y en a 2 qui ont pris la parole elles-mêmes. D'autres ont donné certains commentaires à la procureure qui a fait le message. Le maître chien était là pour les aider à témoigner. C'était difficile. Somme toute, là, elles ont témoigné de l'abus de confiance qu'elles avaient vécu parce qu'au départ, c'est vrai que Régent Bacon se présentait comme quelqu'un qui allait les aider, mm-hmm. puis les sortir de ce monde-là des stupéfiants.
Grosse manipulation.
Et finalement, il a abusé de cette confiance-là et de leur vulnérabilité.
Souvent, quand il y a des plaidoyers de culpabilité, on se demande est-ce qu'il y a eu des négociations pour des réductions de peine. Dans ce cas-là, précisément, je crois comprendre que non.
Il y a eu une négociation. Il a accepté la peine suggérée par la poursuite, qui est quand même grande. Là, on parle de 15 ans de prison. Puis il l'a dit dans sa déclaration, donc je le dis, là, mais pour lui, la peine, importait peu. Lui, ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il avait fait ça pour faire le bien. Et c'est ça qui était un peu choquant et absurde dans la salle parce qu'il y avait un entêtement à ne pas vouloir admettre que ce qu'il avait fait était mal. Donc, il s'excusait, mais se justifiait. Donc, c'était un peu surréel d'être présent et d'écouter ça parce que Il a commencé en disant « Je m'excuse à celles qui se sont proclamées victimes. »
Oh, oui. Ça pas
donc,
bon
ça
sens.
Commence. Déjà, ça commence.
Mal, ouais.
Je vous le dis, là, souvent, là, vous le savez, là, je vous excuse, je suis capable de mettre les émotions de côté puis de faire mon travail. Mais là, j'avais cliqué sur « Enregistrer » puis je n'étais pas capable de prendre de notes parce que j'écoutais puis
C'était sidérant.
Oui. C'est un peu incompréhensible. Puis là, tu vois le juge qui se force à essayer de le laisser parler, mais qui a le goût. T'as les procureurs qui sont prêts de se lever parce que là, t'as les victimes dans la salle, puis tu veux pas
qui entendent ça? Oh, mon Dieu!
Donc, c'est vraiment... C'était une bizarre d'ambiance.
J'imagine.
C'était une bizarre d'ambiance. Et quand le juge s'est mis à répondre à la déclaration de Réjean Bacon, tout le monde a fait « OK, il va se le faire dire un peu, là, parce que ça n'a pas de bon sens de ne pas reconnaître. » Puis il l'a dit, là, le juge il a dit « le tribunal est pessimiste là, à l'idée d'une réhabilitation quelconque. » Réjean Bacon, aujourd'hui, a 75 ans. Et donc là, il est parti pour longtemps et je vous l'ai souvent dit, si tu veux être libéré sous condition, avec une libération conditionnelle, tu dois avant tout reconnaître...
Qu'une admission,
puis il le fait pas. Fait que...
et pour l'instant, on n'en est pas là, là. On en est quelqu'un qui a même demandé à suivre une thérapie en prison pour régler son syndrome de l'infirmier, de l'infirmière. C'est comme ça qu'il le dit.
Ça, c'est ceux qui sont qui
viennent bon.
Aider
les
gens. Qui sont pas capables de pas aider le monde.
C'est un excès de bonté qu'il y a eu. Incroyable.
Hé, mon Dieu, c'est pas possible.
Je sais que tu aimes voir les rayons de soleil dans les causes sombres. Ah! Est-ce que le rayon de soleil dans cette cause-là, c'est qu'il va mourir en prison?
Je peux pas dire ça, Denis.
Moi, je peux.
Le rayon
cette
de soleil,
question.
Et j'aimerais... J'ai mention spéciale aux enquêteurs et aux personnels judiciaires qui travaillent ce dossier-là parce qu'il y avait un procès de 6 semaines prévu. C'était, vous l'avez vu, une cause difficile avec une défense qui pouvait choquer. Des victimes qui, eux, attendaient juste de mettre ça derrière elles. Et c'est Laureline Bureau et Olivier Simard, les enquêteurs dans ce dossier-là. Les procureurs étaient Maître Andréane Sirois et Maître Valérie Bélisard-Joseph, qui ont fait un travail quand même lourd et qui ont tenu à amener ça jusqu'au bout. Et finalement, on a réussi à aller chercher un plaidoyer pour éviter aux victimes de vivre ce procès-là qui allait être... excessivement dur.
Elles étaient soulagées, les victimes?
Très soulagées.
OK. C'est ça qui est important, dans le fond.
C'est tout ce qui est important.
Les membres du jury auraient eu à voir les vidéos?
Oui, puis c'est drôle parce
ils ont évité une balle, eux autres.
Eux
hein?
sont arrivés jeudi matin en pensant commencer un procès. Donc, tu voyais l'air... C'était un jury qui était content d'être là.
Il y avait une mission hâte à remplir. Là.
Oui, puis c'était un jury relativement jeune. Donc, tu voyais qu'il était prêt, là. Puis ça a déboulé rapidement parce que là, bon, nos articles ont été publiés, ils n'ont pas encore accès à leur cellulaire. Le juge dit seulement que, ben merci, mais vous allez être libérés. Il a plaidé coupable hier. Bonne journée. Eux, ils ne savent pas encore ce qu'ils ont manqué. Là. Ils ne savent pas les faits. Là. On ne leur a pas dit. Là.
Imagine, quand tu lis ça aujourd'hui, tu te dis, mon Dieu, je l'ai échappé belle.
Y a-tu un membre du jury qui nous écoute? 418-971-1021.
J'aimerais ajouter, c'est important parce que le jury est toujours accompagné là, pour de l'aide psychologique à travers ça, mais même avec de l'aide psychologique, je pense que tu ne peux pas oublier ce genre d'image-là. Oui. Là. Ouais.
Terrible. Judith, je ne sais même pas si la question se pose, mais il y a un procès là, dans un dossier comme celui-là où une journaliste comme toi a le choix de regarder ou pas les images. C'est quoi ton choix par rapport à ça? Parce que j'imagine que ta couverture... Quoi, je sais pas. Je te pose la question.
Bien, tu fais bien la poser parce que je me la suis posée moi-même okay. avant de débuter parce que je le savais que ça allait s'en venir. Mm-hmm. Puis, j'avais déjà été présente dans une salle de cours où on a décrit les vidéos. Puis, je me rappelle avoir pas fini l'audience parce que je me disais, j'ai pas besoin d'être là. Puis, les descriptions sont déjà tout à fait horribles. J'en avais discuté avec les procureurs. Fait que j'avais une idée de la gravité, en mm-hmm. fait, des faits. Puis là, quand on arrivait au point où on allait peut-être voir les vidéos, ben moi, ce qui m'intéressait davantage, et c'est pour ça que je tenais à être présente, c'est de voir l'accusé réagir aux vidéos, de voir le jury réagir aux vidéos.
Ouais.
Parce que ça en dit long.
Ben oui.
Sur ce que tu penses puis ce que tu ressens.
Puis pour le genre de conversation qu'on a, justement, où on essaye, où tu essayes un peu de nous faire vivre ce qui se passe au palais de justice, c'est souvent la clé.
Puis justement, le juge, il y a eu un moment où il l'a dit qu'il a cassé dans le sens, il a comme un peu détourné le regard. Ben moi, je veux savoir quand est-ce qu'il détourne le regard. Mm-hmm. Je veux savoir qu'est-ce qui provoque cette réaction-là parce que ça en dit long. Et c'est pour ça qu'on tenait à être là. C'est pas parce qu'on tient à... Je veux dire, il y a personne qui veut voir ça.
Pas de la curiosité morbide, puis c'est pas... Sinon, c'est...
Je préfère moi-même tourner le regard que qu'on m'empêche, en fait, d'avoir des informations pour bien rapporter la nouvelle et justement de rapporter la gravité de ce dossier-là et des crimes commis par cet homme-là.
Il y a quelqu'un qui vient de nous texter une pensée à tous nos juristes, techniciennes et travailleurs obligés de voir ça et que ça fasse partie de leur quotidien.
On pense aux greffières, les huissières,
Eux autres, ils partent
jamais,
les
constables spéciaux. Mm. Tous ces gens-là étaient dans la salle et le regard et la pâleur des visages en dit long.
Eux, est-ce qu'ils ont de l'aide? Tu sais, tu parlais qu'il y avait de l'accompagnement pour les membres du jury.
J'imagine que oui, mais eux au moins ont signé pour ça en quelque sorte. Mm-hmm. Je veux dire, ça fait partie du travail. Là, tu le sais que ça va peut-être arriver à un certain moment. Tu le sais que cet
t'es
homme-là...
T'es peut-être plus prêt à ça.
Oui. Plus qu'un jury qui savait pas là, que c'était un film. Là.
Mon Dieu!
Hey, merci, Judith.
Merci à vous.
Judith Desmolles, qui est journaliste pour Le Soleil, qui couvre les activités du Palais de justice. Sans faire de mauvaises blagues, mettons que ça a été un cadeau de Noël pour tout le monde, là, que les membres du jury, particulièrement les victimes, n'aient pas à entrer en contact avec les images ou à subir le procès avec tous les détails. Donc, 15 ans de prison. Pour Régent Bacon, il est 17h04, on s'arrête pas longtemps, on revient. Vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Gravel.